parabole du jour avec le Père Willem.
Les grands mouvements migratoires, c'est un phénomène irrépressible. Il apparaît depuis 6 ans que le défi se présente à une échelle bien plus grande. Il y a l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire essentiellement le Bangladesh, le Pakistan et l'Afghanistan, avec pour destination le Royaume-Uni. La Syrie essentiellement vers l'Allemagne et la Suède. La Gambie, le Nigeria vers le Royaume-Uni. Le Mali vers la France et l'Érythrée, où se déroulent, en l'absence de conflits armés, des phénomènes migratoires circulaires classiques. Les Balkans occidentaux, avec un exode massif et très récent des Kosovars. Dans les études migratoires, il faut prendre en considération les phénomènes du push, c'est-à-dire le départ, et que les phénomènes du pull, c'est-à-dire l'attraction, excepté les Syriens et les Irakiens, les migrants ont des motivations qui sont à chercher du côté du pull, c'est-à-dire de l'attraction. Il s'agit essentiellement de migrations économiques dues à la forte attractivité de l'Union européenne et qui est en zone entourée, par contraste avec les États-Unis, de régions crise, l'interdépendance actuelle des pays au sein du grand maillage des communications planétaires rend, à mon sens, le phénomène migratoire vers l'Europe irrépressible. Ce n'est pas seulement le malheur qui pousse les populations à migrer, mais toute la diversité des stratégies observables au sein d'une même famille. Mais contrairement à l'agriculture, à la pêche, à la politique monétaire et aux enjeux de la libre circulation des étudiants, les politiques migratoires ne sont pas jusqu'à présent une politique commune de l'Union européenne. Et en 1985, dans Le Dieu masqué, Thierry Mounier écrivait déjà ces phrases aussi fortes que prophétiques, illustrant le côté irrépressible que nous avons évoqué et qu'aucun mur, grillage ou barbelé ne pourra jamais arrêter. Voici ce que dit Thierry Mounier. Ils arrivent. En quelques années, leur nombre a doublé dans les montagnes érodées qui ne les nourrissent plus, sur les rivages battus par une mer qui est devenue stérile, dans les savanes rongées jusqu'aux racines, le long des vallées trop étroites où les fleuves sont ensablés. Ils prolifèrent sur les terres glacées de l'Arctique, jusque dans les Kalahari de la soif et les Andes irrespirables. Ils se rassemblent et se bousculent dans les marécages stériles et gorgés de fièvre, dans les estuaires à typhons, sur les terres les plus pourries et les plus desséchées. Ils ont déjà quitté les forêts défoliées pour s'agglomérer autour de nos cités en bidonville envahissant. Ils se rassemblent, ils couvrent les continents de multitudes affamées. Ils se rassemblent, ils s'avancent. Ceux qui sont derrière, ce sont ceux qui sont devant. Ceux qui vivent, piétinant ceux qui meurent. Et leur marche est celle des migrations de rongeurs, des fourmis processionnaires, des criquets pèlerins. Bientôt ils seront là avec les armes de la faim, les insectes appelés hommes. 4 milliards aux trois quarts du XXe siècle, 6 milliards en l'an 2000, 100 millions de plus chaque année, sans doute 8 milliards en 2025 et après. À ce rythme, vaut-il encore la peine de penser à autre chose? La plupart de ceux qui sont opposés à l'accueil des réfugiés et des migrants avancent deux arguments principaux. D'une part, ils répètent en boucle et à tous, à tout vent, la fameuse phrase de Michel Rocard : la France ne peut pas accueillir toutes les misères du monde, sauf que la phrase complète se termine ainsi, mais elle doit en prendre finalement sa part, disait Michel Rocard. Final qui n'est jamais rappelé et qui de ce fait dénature la pensée de l'ancien Premier ministre sur le fond de la question. Le grand élément qui émerge des débats, tant dans les milieux politiques que dans les médias, peut se formuler ainsi. À la rigueur, on pourrait accepter pour un an les réfugiés en provenance des pays en guerre, mais pas les autres, c'est-à-dire ceux qui sont qualifiés de migrants économiques. On admirera au passage la pudeur de l'expression pour désigner les victimes de la guerre issue de la pauvreté et de la faim, car c'est une autre guerre sans doute, mais une vraie guerre avec ses milliers de morts de faim et de manque d'eau, mais sur laquelle nombre de nos concitoyens et de nos hommes politiques se bouchent les yeux et les oreilles. En Occident, on ne sait plus ce qu'est que mourir de faim. Or, c'est une mort lente, longue et terriblement douloureuse. Mais bien entendu, l'on ne peut pas sauver le monde entier, mais sans doute on peut faire un peu plus que ce que nous avons déjà fait. À titre de contribution, nous pouvons peut-être ajouter ceci. Pour sa bonne compréhension, il faut sauver ce qu'il a écrit en 2008 pour une intervention au lycée Raoul Follereau dans une ville de France. Je pense que c'était à Nevers. Voici ce qu'écrivait ce témoin de la FAO et de la PAM, c'est-à-dire le Programme d'alimentation mondiale. Certaines organisations non gouvernementales, églises, associations, savent parfaitement et depuis longtemps que le problème de la faim dans le monde est un problème récurrent, comme ils savent que nourrir une population mondiale en constante augmentation et qui a connu une accélération foudroyante depuis l'année 1800, le premier milliard d'hommes sur la Terre en 1800, alors que nous sommes à 7,5 milliards en ce jour, est devenu un problème majeur et cette brûlante question a été remise sur le devant de la scène internationale avec les émeutes de la faim, par exemple, de 2008. Les émeutes en Côte d'Ivoire, Bangladesh, en Haïti, en Égypte, Philippines, 38 pays au total. Tout cela, c'est une provocation de ces événements si douloureux que connaissent beaucoup d'êtres humains. Puissions-nous nous ouvrir à l'aujourd'hui de ce monde et ne pas rêver, accueillir ce monde, faire les petits gestes, parfois insignifiants, ne pas gaspiller ce qui nous est donné jour après jour, pour que nous soyons un peu plus solidaires de ceux qui souffrent et qui espèrent tant un autre monde meilleur et plus fraternel.